Bon mardi, j'espère que vous allez bien tout le monde. On a beaucoup de choses à discuter ensemble en première heure d'émission. Je vous le dis d'entrée de jeu, nous aurons deux sujets. Donc pour parler de notre premier sujet, je vous donne tout de suite nos numéros pour nous joindre et en discuter ensemble. Ce sont les 514-790-9850 et le 1-866-790-9850. Je sais que ce premier sujet va beaucoup vous intéresser parce que on a beaucoup parlé depuis l'affaire Camara. Vous savez, cet homme qui a été faussement accusé par le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, une histoire d'arrestation, visiblement, où Monsieur Camara a été faussement accusé. On parle aujourd'hui d'une grave erreur judiciaire. D'ailleurs, il y a quelques jours, il a reçu une médaille de l'Assemblée nationale. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que c'est nécessaire pour éviter ce genre de situation désagréable et pour les citoyens faussement accusés et pour les policiers aussi, je rajouterais, c'est important aujourd'hui que chaque patrouilleur soit muni de caméras portatives. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on annonce, là, c'est la Sûreté du Québec qui a envoyé un communiqué là-dessus, qui dit qu'il y a à peu près 40 caméras qui vont être à l'essai dans le cadre d'un nouveau projet pilote sur des patrouilleurs. Ça va se passer dans quelques régions du Québec. Ça sera sur une durée de 12 mois. Et ce qu'on veut, c'est voir vraiment là, de quelle façon on va pouvoir éventuellement appliquer ces caméras corporelles dans le contexte du travail policier. Il y en a, puis on s'en est déjà parlé, vous et moi, à cette émission, ben, il y en a qui disent que ça servira peut-être pas à grand-chose parce que qu'il y ait caméra ou pas, puis il y a eu des tests là-dessus, c'est pas la première fois qu'on parle de projet pilote. Il y a eu d'ailleurs des rapports décrits là-dessus, entre autres au service de police de la Ville de Montréal. Il y a eu également à l'Union des municipalités du Québec, pardon, un livre vert sur la réalité policière au Québec où on parlait aussi de ça, puis on disait, ça fait pas tant de différence que ça, les caméras corporelles. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Trouvez-vous quand même qu'on est rendu là? Et surtout, ma question, est-ce que vous croyez que ces caméras portatives sur des policiers pourraient éviter des arrestations trop musclées? On en discute avec Guy Ryan, ex-inspecteur au crime organisé au service de police de la Ville de Montréal. Bonjour, Guy.
Bonjour Isabelle.
Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, responsable du respect des normes professionnelles à l'époque. Bonjour Marcel.
Bonjour Isabelle.
Est-ce qu'on est rendu là, Marcel Savard, c'est-à-dire les policiers doivent porter des caméras, ne serait-ce que pour essayer d'aller regagner la confiance du public?
Moi, je pense qu'on est rendu là. Écoutez, ça fait quand même depuis 2014, les années 2014, qu'on fait des tests et des projets pilotes. On voit que ça a été retardé parce que, pour différentes raisons, que ce soit financier, complexité, gestion de la preuve et autres. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour retarder au moins ces projets pilotes multiples. Et aussi, éventuellement, la mise en place. Moi, je pense que c'est un incontournable dans la société où on est rendu.
Guy Ryan, c'est un incontournable?
Oui, moi aussi, je suis d'accord que c'est un incontournable, mais il ressort quand même que beaucoup de coûts requérants à ces caméras-là, et Marcel en disait un mot, là, concernant la gestion de la preuve, tout l'archivage de ces choses-là, c'est ce qui avait été ressorti lors du projet pilote au service de police de la Ville de Montréal. Mais il reste quand même que ça va l'éviter. Ça va éviter beaucoup de baveux. Ça va éviter des excès également. Et ça, c'est important.
C'est intéressant. Vous dites que ça va...
Pour la crédibilité d'un service de police, c'est important qu'il y ait moins... Et on aura moins également des vidéos amateurs à l'effet que ça va être filmé partiellement ou juste en partie, soit le milieu de l'intervention ou la fin d'intervention. On aura moins d'écart de langage également, de part et d'autre, que ce soit de la part du citoyen ou de la part du policier intervenant ou l'interpellant, celui qui va interpeller les gens. Je crois que c'est nécessaire, surtout dans les grandes villes, parce que vous savez, ça déborde tellement rapidement maintenant. C'est tellement rapide le débordement et tout le monde saute à plusieurs hypothèses. Et là, ça sera peut-être plus concluant avec la venue de ces caméras-là.
Mm-hmm. Là, ce qu'on veut éviter, c'est que c'est pas que sur les hypothèses qu'on saute, c'est aussi sur des citoyens. Là, on veut éviter justement qu'on saute trop rapidement sur des citoyens puis qu'on soit face à des arrestations qui semblent trop musclées. La dernière en tête, c'est celle dans le métro de Montréal où pour un passage qui n'était pas payé, là, $3,50, il y a eu usage assez étonnant, pour pas dire complètement injustifié de la force. Marcel Savard, quand vous étiez actif, vous, à la SQ en 2014, vous avez vous-même participé à un projet pilote. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre expérience à ce moment-là?
Ben, je vais vous dire, Isabelle, que l'avenue des caméras ne réglera pas tous les dossiers qui sont litigieux et qui sont problématiques ou questionnables. Ça, c'est certain, là, il faut partir de cette prémisse-là. Maintenant, est-ce que c'est arrivé qu'à l'époque, si on avait eu des caméras portatives, on aurait justement, comme le dit Guy, eu accès à l'ensemble de l'événement, que ce soit le début, donc toute la genèse de l'événement, comment ça part, comment ça évolue, dans quelle attitude les policiers sont, le sujet qui est interpellé est. Et tout ça, on aurait l'ensemble de l'œuvre. Actuellement, ce qu'on voit, c'est une portion. Et on voyait à l'époque, en 2014, même c'était un petit projet pilote. On était vraiment au balbutiement de tout ça. Puis on disait, ben avec le bout de film qu'on a, que ce soit vidéo ou cellulaire, vous savez, il y a autant de reporters au Québec qu'il y a de cellulaires sur le terrain. Ça, là, c'est un fait. Donc, imaginez l'ensemble des possibilités de petites prises de séquences vidéo qui sont vraiment partielles, qu'on peut justement, sur lesquelles le public, la société se base pour juger un événement.
Vous voulez dire qu'aujourd'hui, tout citoyen muni d'un cellulaire devient une caméra portative, finalement, c'est ça? Devient une personne qui peut rapporter de la nouvelle, puisqu'il l'affirme.
C'est vraiment du rapport de nouvelles. Cependant, on n'a pas l'ensemble de l'œuvre. Et c'est ça l'enjeu actuellement. C'est toute la genèse de l'événement, comment ça a parti. Mais évidemment, il va survenir. Et déjà, à l'époque, on se posait les questions qu'on se pose encore aujourd'hui dans les problématiques, parce qu'il y en a plusieurs. Mais c'était, à quel moment déclenche-t-on, active-t-on la caméra? Et ça, c'est un enjeu qui va être encore aujourd'hui. On a vu que dans le projet de Val-d'Or, le déclenchement va se faire, entre autres, soit manuellement, ou soit à la sortie de l'arme de service.
C'est ça. Oui, et dans les MRC de Beauharnois, Salaberry et Drummond, elles vont être activées manuellement, mais aussi automatiquement déclenchées lorsqu'un agent va dégainer son arme à feu ou son pistolet à impulsion électrique.
C'est ça, c'est important. L'exemple, l'arme à feu ici au Québec, on sait que l'arme de service, donc l'arme réelle, est sur un côté, le côté fort de l'individu, et l'arme à impulsion électrique est sur l'autre côté. C'est le but de tout ça, c'est d'éviter justement qu'il y ait des méprises. Rappelons-nous tout récemment le dossier aux États-Unis où la dame, en fait, ce qui est rapporté, c'est que la dame policière a mépris son arme de service pour l'impulsion électrique et elle a fait feu. Mais est-ce que c'est la réalité? On verra à l'enquête. Mais vous savez, si on a vraiment une séquence vidéo de tout ça, avec déclenchement et activation au moment opportun. Vous savez, là, actuellement, là, ce sont des tests pilotes. Il faut comprendre ça, là, ce sont vraiment des projets pilotes. Mais pour moi, l'activation de cette caméra, il y a beaucoup de modèles qu'il va falloir évaluer. Vous savez, le déclenchement manuel, c'en est une. Le déclenchement par la centrale qui donne l'appel selon certains types d'appels, c'en est une deuxième. Le déclenchement sur la sortie de l'arme de service ou l'arme d'impulsion électrique, c'en est une troisième. Le déclenchement par le policier au moment où il débute son chiffre et à la fin de son chiffre. Donc, imaginez, c'est toute une séquence de 8-9 heures où la caméra va rouler, bon, à l'exception peut-être de l'heure de repas et de repos, mais c'est un autre modèle. Et tout ça va amener des difficultés dans la gestion des données.
Savez, là, ne serait-ce technique. Que pour garder ces heures de data, là, de données, ça va prendre énormément, ça va prendre de la place quelque part, là, puis on ne met pas ça sur une tablette.
Bien, c'est ça. C'est que là, on se pose la question. Et dans les différents projets pilotes qu'il y a depuis des années, dont celui du SPVM, entre autres, on arrivait à certaines conclusions là-dedans, à dire... OK, est-ce que à la fin d'un chiffre, on va avoir du personnel qui vont faire de l'édition vidéo pour justement minimiser les téraoctets de données, là, pour parler technique, là, c'est des téra, c'est des immenses quantités de données. Donc, est-ce qu'on va faire de l'édition et vidéo? À partir du moment où il y a quelqu'un qui fait de l'édition sur une séquence vidéo ou sur un chiffre complet, ben là, il y a des gens qui vont se poser la question. Est-ce qu'on a édité certaines interventions? Est-ce qu'on a édité ou éliminé, effacé des choses problématiques? Donc, tout ça va être à évaluer et on est dans la gestion de la preuve, mais il y a aussi la gestion, évidemment, du dossier lui-même. Tout ça, l'archivage, l'indexation. S'il y a quelqu'un, exemple, un citoyen qui désire contester une quelconque infraction qui lui est reprochée, un billet d'infraction, est-ce qu'il va pouvoir demander accès, parce qu'aujourd'hui, la preuve doit être accessible à toute personne qui veut se défendre, mais est-ce qu'en droit pénal, donc les constats d'infraction au code de sécurité routière, est-ce que quelqu'un va pouvoir demander l'accès, la gestion de tout ça, donc c'est l'indexation, retrouver la séquence vidéo, comment on va divulguer ça, est-ce qu'on divulgue l'ensemble des séquences vidéo qui ont été prises par ce policier-là dans cette journée-là, et ce sont des questions très légitimes en droit de la preuve, mais en bout de ligne, ce qui est important, c'est d'aider à ce que le citoyen sente que c'est le plus transparent possible, soit les opérations policières ou soit même la gestion des caméras portatives.
Ouais.
C'est comme ça que je vois le dossier qui s'en vient, qui va arriver dans les mois qui vont suivre.
Oui, mais j'ai quand même deux gros dossiers devant moi qui ont fait état, entre autres, au SPVM. Une des conclusions dans la relation policier-citoyen à la lumière d'un projet pilote de caméra portative, là, ça remonte en février 2019. Selon les policiers, ce que ça dit, c'est que la caméra a finalement peu d'effet sur l'attitude des citoyens en général. Ça améliore pas les interactions auprès des clientèles. Finalement, ça aurait peu de changements sur les pratiques d'intervention policière. On va voir ce qu'en pense rapidement avant la pause. Pierre, bonjour.
Oui, bonjour Isabelle. Moi, justement, les deux exemples, en tout cas un des deux que vous avez parlé tantôt dans la question des policiers de la STM, bien pas les policiers, les agents de sécurité de la STM, si ça avait été filmé depuis le début par les policiers, on aurait vu qu'il y avait une gradation. Je suis pas policier moi-même, je suis un simple citoyen, mais premièrement, la personne refuse de payer, deuxièmement, refuse de s'identifier, troisièmement, elle se pousse, puis pour après, tu lui mets la main sur l'épaule, là, c'est sûr, ça commence à se tirailler, il tombe à terre, puis là, la personne crie au meurtre, à mort les officiers de la sécurité, tu sais, fais-toi mordre au mollet, là, suffisamment, d'après ce que j'ai entendu, pour aller à l'hôpital, y passer la journée, des morsures humaines, c'est dangereux. Fait que c'est sûr que le gars va tout faire pour se défaire d'une morsure comme ça, fait il va donner des coups de poing, il va faire ce qu'il peut, puis le monde crie autour, il essaie d'enlever le bras des agents de sécurité qui essaient de l'intercepter. Fait que ça, c'est le premier argument que la caméra avait très bien montré du début à la fin. Au début, c'était calme, collabore, tu sais, ils font ce qu'ils ont à faire. Puis la deuxième chose que j'ai vue, moi, par vidéo sur YouTube, qui m'a bien impressionné, c'est la jeune fille de 15 ans qui a été tuée aux États-Unis il n'y a pas longtemps, même pas une semaine, je crois.
Ouais.
Ben ça, c'est pareil. Tu vois, dès que le policier débarque de son auto, elle dit « arrête, arrête », la jeune fille, à un moment donné, est en train, elle fait le swing avec son bras comme pour aller poignarder une autre fille. Fait que là, ça a fait des grands scandales, encore une personne, tuée par un policier, une enfant de 15 ans, mais c'était pas une enfant de 15 ans, ça en allait en assassiner une autre, probablement. Ouais. Fait que sauver une vie, bien plus qu'en enlever une. Fait que les caméras permettent ça, tu l'as du début à la fin, ça permettra aussi d'éviter des manifestations qui finissent plus à chaque fois qu'un policier est impliqué.
Ouais.
Moi, personnellement, comme citoyen,
vous êtes pour donc
pas, ouais,
et vous dites comme ça aussi, un peu comme Julie qui m'écrit, qui est pour la caméra portative, elle dit ça protège les citoyens, mais aussi les policiers qui sont parfois victimes de vidéos prises souvent hors contexte. Merci Pierre. On a Sylvain là-dessus. Bonjour Sylvain.
Bon matin. Je sais que le travail de policier n'est pas facile. Je comprends qu'ils font faire des gens, quelquefois des citoyens agités. Mais moi, la caméra portative, je ne suis pas certain. Puis là, on va aller à la base de l'enseignement policier, la maîtrise des émotions. On parlait de maîtriser un citoyen agité avec des techniques de maîtrise qui sont efficaces sans être quatre sur la même personne. Il y a ça aussi. Puis c'est ça, la maîtrise des émotions, c'est que la personne soit une sorte de couleur, ça n'a aucune importance. Je ne parle pas de racisme là-dedans. C'est juste que moi, je suis pas sûr qu'une caméra portative va aider. Mais c'est surtout l'éthique et aussi l'imputabilité des policiers lorsqu'ils abusent.
Ouais.
Et des corps policiers, lorsqu'ils font pas, les procès sont pas plus ou moins pour le citoyen, sont neutres un peu, sont pas évidents. Moi, c'est ça que je vois comme problème. Il y a un problème là-dedans. Puis votre monsieur Marcel, c'est sûr qu'il amène des points que ça va être des données, rapporter des données des toutes les caméras, ce sera pas évident. Mais à la base, l'humain, face à un autre humain agité, il faut qu'il se maîtrise. c'est la police, c'est servir et protéger. On s'est supposé d'être ça, là.
Merci beaucoup, Sylvain. On va aller à la pause. On va revenir avec vos commentaires sur cette question. Est-ce que vous croyez que des caméras corporelles sur les policiers, ça va éviter des arrestations jugées parfois comme étant trop musclées? Est-ce que c'est une bonne façon de protéger les citoyens et aussi les policiers qui doivent être assez tannés, là? Moi, sincèrement, si j'étais policière, sincèrement, je pense que je serais en faveur des caméras sur moi. Ce serait, mettez-moi une caméra, là, j'en peux plus de me faire pointer du doigt. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui se dit dans les rangs policiers. Si vous êtes un policier, policière, j'aimerais ça vous entendre d'ailleurs là-dessus. On a deux ex avec nous, deux ex-policiers, Marcel Savard et Guy Ryan, reviennent après la pause. On va vous écouter là-dessus. 514-790-9850. On s'intéresse à cet autre projet pilote là qui va se passer à la Sûreté du Québec dans quatre régions différentes du Québec. Ça va demander évidemment 40 caméras et un peu d'argent, 1 million de dollars qui va être versé donc pour ce projet-là. Un autre projet pilote, ce qui a fait dire d'ailleurs à l'opposition de la Ville de Montréal il y a quelques temps, est-ce assez les projets pilotes là? Il me semble que la technologie là, il y a ça dans plusieurs villes d'Amérique du Nord. Elle est demandée cette technologie de toute façon dans d'autres corps policiers un peu partout au Canada. Donc on sait comment la mettre en application. On sait que ça peut faire une différence. Bon, vous avez entendu mes invités, Marcel Savard, Guy Ryan. Marcel Savard a été directeur adjoint à la Sûreté du Québec, Guy Ryan au crime organisé, au SPVM. Tous les deux ont des très bons arguments par rapport à tout ça, mais je pense que ce qu'on comprend, c'est qu'eux-mêmes disent on est rendu là. On a Marc-André avec nous qui nous appelle. Bonjour Marc-André. Vous avez vécu quelque chose en particulier, Marc-André?
Oui, Isabelle, ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Oui, ça remonte en 2008. Écoutez, j'étais assis dans un bar avec des amis en train de prendre une consommation avec une coupe de consommation de poisson, oui. Mm-hmm. Avec une coupe. Après ça, je vous dirais, plus la soirée avançait, plus que on commençait à flyer, olé olé. Puis à un moment donné, j'ai su par un des barman, parce que c'était un endroit que je fréquentais à la Chine. Et souvent, puis je connaissais souvent les gens, puis j'ai parlé au barman, j'ai dit, tu sais, c'est qui ce monde-là? Ils m'ont dit, ah, c'est tout le monde qui est en technique policière, blablabla. Bon, à un moment donné, durant la soirée, j'ai abordé une jeune demoiselle, puis j'ai été reviré de bord, puis j'ai été tanné à un moment donné.
OK, là, la police est intervenue, c'est ça? Avez-vous été intercepté par les policiers?
Non, c'est ce qui est arrivé, c'est j'ai commencé à chanter la chanson « Bonjour la police » de Rock et Belles Oreilles.
Oui.
OK. Donc, le barman me dit, gars poliment, Marc-André, garde, quitte, s'il te plaît, ça serait mieux comme ça, blabla. Bon.
OK, mais je vais vous demander d'accélérer, qu'on vienne au but, parce qu'on a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Marc-André, j'essaie de comprendre, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Avez-vous été intercepté par des policiers ou pas?
Oui, 3 mois plus tard, on m'a intercepté, puis on s'est souvenu de moi. Les policiers m'ont menacé de mort. J'avais, dans le fond, quelqu'un qui était avec moi comme témoin, qui, on m'a carrément dit qu'il y avait 15 à 20 policiers qui voulaient ma tête. Fait que moi, j'ai voulu sortir mon téléphone cellulaire pour enregistrer la conversation.
Okay.
Puis ils m'ont dit, sors tes mains, parce que sinon, on va te tirer.
Merci beaucoup, Marc-André. OK. On a quelqu'un d'autre là, qui veut intervenir? Stéphane est avec nous. Bonjour, Stéphane.
Bonjour, Isabelle. Ça va bien?
Hello. Oui, on vous écoute, Stéphane, oui.
Oui. Écoute, Isabelle, je pense qu'on n'aura plus le choix.
Bon.
Parce qu'avec tout ce qui se passe, j'ai vu un jeune homme l'autre jour sur Facebook se faire attaquer par un policier à Laval.
Mm-hmm.
Il s'est fait pogner par le collet, puis il s'est fait sortir de là.
Fait que vous dites que les caméras, ça risque d'éviter ce genre de situation.
Ben, écoute, je pense pas que la SQ aurait besoin de ça. La SQ, ils sont trop diplomates. Ils font que faire la circulation, se promener sur l'autoroute. Je pense plutôt que c'est nos corps policiers qui jouent dans l'action énormément.
Mm-hmm.
Comme Montréal, Laval, surtout qu'il y a toutes sortes d'histoires qu'on vit présentement avec la pandémie, ces histoires-là.
Oui, ouais, effectivement.
Je pense que ça serait les quartiers de Montréal. Parce que la SQ, c'est pas des. C'est des policiers vraiment low profile, la SQ, là.
Mm-hmm.
Les gars de la SQ, ils nous arrêtent, ils donnent étiquette, ils donnent avertissement, ils s'occupent de la circulation. C'est pas des gars rock'n'roll, là. C'est pas du monde qui sont pognés dans la ville comme.
Avec tous les enjeux d'ailleurs d'une ville, c'est ça que vous voulez dire aussi. Merci. Ouais. Oups, gaspiller de l'argent qui disait. En même temps, ben oui, ça coûte quelque chose. On a donc nos deux ex-policiers, Marcel Savard, Guy Ryan. Bon, vous avez entendu, il y a du pour, il y a du contre. Évidemment, j'ai l'impression que plus que jamais, les citoyens sont en faveur, Guy Ryan.
Oui, les citoyens sont en faveur, mais je suis un peu inquiet parce que, vous savez, les projets pilotes, ils disent que c'est au déclenchement de à la sortie de l'arme à feu ou de l'utilisation du laser qui est dans le continuum de force. Souvent, là, les premiers balbutiements d'une enquête ou d'une interpellation font en sorte qu'il y a du dérapage, que ce soit du point de vue langage, et là, ça ne serait pas enregistré parce que la caméra ne sera pas déclenchée. Il faut attendre que l'arme de service, vous savez, l'arme de service, là, Marcel l'expliquait très bien, c'est le dernier ressort, ça, sortir l'arme de service, c'est que savoir qu'une vie est en danger ou que la vie du policier soit en danger également. Mais si la caméra le déclenche seulement au fait qu'il sort l'arme de l'étui de service, mais on va manquer beaucoup de l'événement. On va manquer tout le début de l'événement. Et vous savez, les événements majeurs où on aurait eu besoin de ces caméras corporelles-là, mais il n'y avait pas d'arme de service d'impliquer. La majorité des cas, il n'y avait pas d'arme de service d'impliquer. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a vu qu'il avait été tiré, mais ceux-là qui ont eu exagération, comme dans le métro, l'agent de sécurité se fait mordre et là, il se débat. Mais l'utilisation du continuum de force, il aurait pu utiliser d'autres méthodes que s'acharner à le battre, essayer de le battre.
Oui, c'est ça. Les gens réagissent beaucoup par rapport à ça. Puis ils disent, normalement, ce sont des gens qui sont formés. Dans le cas des policiers, c'est quand même 3 ans à Nicolette où là, tu dois avoir acquis les méthodes d'intervention qui sont pas celles du quidam, là, du commun des mortels là, qui interviendrait sur une situation comme ça. Tu sais, un gars qui veut séparer deux gars qui se battent, c'est pas un policier, là. Il sait pas comment forcément maîtriser une situation comme ça. On s'attend que les policiers, eux, le sachent. En même temps, j'ai un policier là, qui m'écrit, qui dit « Moi, je suis pas trop sûr pour les caméras. Est-ce que... » Il pose une question. Est-ce que, par exemple, dans le véhicule, les patrouilleurs se racontent leur vie, disent toutes sortes de choses. La caméra, elle tournerait pas dans ces cas-là. Peut-être Marcel Savard là-dessus, puisque vous avez vous-même déjà été... Donc, participer à un projet pilote?
Oui, en fait, Isabelle, deux petites choses. D'abord, il faut faire attention parce que effectivement, la Sûreté du Québec est en région, mais elle couvre de grandes municipalités. Et aussi, souvent, les policiers sont isolés sans appui supplémentaire de confrères. Et la perception et l'activation d'une caméra sur un événement pourrait justement... aider vraiment à la compréhension de l'événement parce qu'ils sont en région éloignée puis ils font face à un dossier. Maintenant, l'activation. L'activation de la caméra, actuellement, on voit qu'on est principalement axé sur le mode manuel ou le mode de sortie de l'arme de service. Comme le dit Guy, à partir du moment où tu sors l'arme de service, à moins que tu l'aies sortie d'emblée parce que tu étais rendu là en arrivant sur l'événement, il va nous manquer la prémisse qui nous amène à sortir l'arme de service. Donc, pour moi, l'activation va devenir un enjeu.
Ouais.
On est en projet pilote, 40 policiers seulement, c'est quand même pas beaucoup. On dit manuel, arme de service. Mais vous savez, il pourrait y avoir le manuel, on pourrait y avoir une activation à distance par la centrale qui fait les rapports d'événements, qui donne les appels. Donc, eux autres, la technologie le permet là, actuellement d'activer la caméra à distance. On a ça dans nos maisons. Après ça, on pourrait activer la caméra sur certains types d'événements sur lesquels le policier se déplace. Et l'enjeu que vous venez de souligner, c'est si on active la caméra en début et de relève jusqu'à la fin de la relève. Donc, qu'est-ce qui arrive avec, justement, toutes les discussions de deux confrères qui sont dans l'auto, qui passent 8 heures ensemble? Ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble, ben, on parle de toutes sortes d'affaires, de toutes sortes de choses. Est-ce que tout ça est confidentiel? Des fois, il y en a qui parlent de leurs problèmes.
Mais oui, complètement. Ouais. Mais j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression, puis on va se laisser là-dessus. Guy Ryan, un petit mot en terminant vite. Mais j'ai l'impression que ce n'est que le début, là, véritablement, du débat là-dessus. Du débat technique, là, parce que à partir du moment où on dit, OK, on est là, on est rendu là, puis tous les deux, c'est ce que vous me disiez. Maintenant, comment va-t-on choisir de le faire, Guy?
Mais c'est ça qui va nous démontrer, ce projet pilote-là, à la Sûreté du Québec, même si c'est seulement 40 agents, ça va démontrer le fait qu'il va y avoir des problèmes d'archivage, comme on l'a indiqué, des problèmes également de déclenchement de cet appareil-là. Parce que pour la protection du policier et la protection des citoyens, il faut que ça soit déclenché au début d'une intervention. On n'a pas besoin de savoir. Puis après ça, ils vont peut-être se servir de ça pour d'autres fins, que ce soit des fins disciplinaires ou des choses comme ça. Ça, ça sera une autre approche. Et ça, je vous le dirais, que là, ça va être susceptible des affaires privées, justement, comme Marcel mentionnait, les conversations privées à l'intérieur d'une voiture ou les conversations contre un superviseur ou contre un patron. Toutes ces choses-là vont peut-être vont être vérifiées, mais il restera quand même une chose. Dans les événements qui nous préoccupent régulièrement, ce sont des abus de force. Le continuum de force a-t-il été respecté? Est-ce que la personne a été menottée et placée immédiatement dans le véhicule? Comme ça, on évite toutes sortes de problèmes, au même titre que M. Chauvin, qui était trouvé coupable aux États-Unis, qui a laissé le genou sur la gorge de l'individu qui était menotté à terre. Mm. Que ça soit filmé par une personne privée ou que par sa propre caméra, ce sont des abus que ça n'est plus permis par la société aujourd'hui.
Voilà.
C'est ça qui est important de voir.
Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de nous expliquer ça. Guy Ryan, ex-inspecteur au crime organisé au service de police de la Ville de Montréal. Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec. On s'arrête ici. Est-ce qu'il faudrait vraiment un congé payé pour tous ceux qui n'ont pas encore eu leur vaccin? C'est en tout cas ce que demandent 123 signataires d'une lettre que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal. Beaucoup de médecins, d'ailleurs, qui disent que effectivement, avec ce qui se passe, c'est durement frappé par la troisième vague. Ben, c'est de notre devoir de citoyen d'y aller. Mais si on n'y va pas se faire vacciner, on peut peut-être se faire aider par l'État et par notre employeur et avoir un congé payé pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On en parle tout de suite après.